Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
10h06 sur RMC, vous écoutez les grandes gueules du sport. Merci à vous, en direct jusqu'à midi. Pascal Duprat, Marie Martineau, Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux. Ce matin, les grandes gueules du sport, à retrouver également tous les jours en podcast. Vous pouvez retrouver notre débat d'ailleurs de 9h sur le Paris Saint-Germain avant le choc face à l'OM. On reparle bien sûr de ce choc au sommet en Ligue 1 dans une heure avec l'OM qui a peut-être tout à gagner ce soir. C'est l'année ou jamais pour les Marseillais. Qu'est-ce que vous en pensez? On vous attend au 32-16. Dans 30 minutes, la punchline. GG sur le premier classico totalement raté de Mbappé avec le Real. Il a été découpé par la presse espagnole. On sera à Madrid en direct. Et puis à 10h45, vous le savez, les GG veulent prendre les commandes de l'émission. Les grandes gueules contre-attaquent, les amis. Les GG ont des débats à vous proposer. C'est à vous de choisir. C'est le moment de nous vendre vos débats. Et ensuite, vous pouvez aller voter sur le débat préféré sur le compte X des grandes gueules du sport. Pascal, à toi l'honneur.
Oui, ben je vais continuer sur enchaîner sur le rugby et les affaires, puisque j'ai lu que Samuel Marquez, demi de mêlée de Béziers, en Pro D2, international portugais, un joueur que j'admire, que j'adore, est visé par une enquête de la Ligue nationale de rugby. Donc j'aimerais qu'on parle du fléau et des fléaux qui sévit dans le sport.
Ah, on en a un peu parlé hier, je ne sais pas si tu as suivi l'émission. Marie Martineau.
Alors moi, j'aurais aimé vous emmener faire un peu de moto et qu'on discute de Zarco et Quartararo, qui, à eux deux, ne cumulent aucun podium sur la saison de MotoGP cette année. Et alors qu'on sait le talent dont ils sont pétris tous les deux, et de manière différente, enfin c'est deux pilotes différents mais qui sont vraiment extraordinaires, et donc moi ça me peine vraiment. Donc ma question c'est est-ce que la moto française est au fond du seau, et j'aurais aimé qu'on en parle tous ensemble.
Quartararo qui a fini 16e d'ailleurs de la course ce matin en Thaïlande, remporté
il s'est fait sortir,
par Francesco Bagnaia,
et Zarco fait 8.
Christophe, ton débat.
Moi j'aimerais parler de rugby, mais pas des mots qui touchent le rugby, parce qu'on a l'impression qu'on n'entend plus parler que de ça en ce moment. Moi j'aimerais vous parler de deux garçons qui sont tout simplement des demi de mêlée d'une qualité hallucinante, qui auraient sans doute leur place dans toutes les sélections nationales et qui ne sont même pas appelés par Galtier. Ils s'appellent Couillou et Serin. C'est deux génies du rugby. Ils font un début de saison extraordinaire et ils sont pas là. Mais on a tellement de demi de mêlée que voilà. Mais bon, je pense qu'on va plutôt parler de rugby et de ces
excès. On va voir. Ce sont les gens qui votent.
J'en suis persuadé.
Ça va.
Tout de suite. Il commence à me défoncer.
Moi aussi, je vais vous parler de deux garçons.
Ouais.
Ah. Eh oui, je vais vous parler d'Arthur Fils et de GMP. Giovanni Mpeci Pericard, qui, semble-t-il, sont en train de tout doucement nous faire oublier nos mousquetaires, les New Rising Stars. Je vais vous raconter leur histoire.
Parle-moi de Moïse.
Mais laisse-la.
Mais oui, Moïse, il a 15 ans. Là, je te parle de joueurs qui ont 20 et 21 ans. Et ces deux garçons-là commencent à pointer leur bout de leur nez. Ils sont dans le top 20.
C'est marrant. Tous les 2-3 ans, tu nous en ressors comme ça.
C'est fou.
Non, mais attends, c'est quand même pas qu'ils
sont. Le but, c'est de vendre son débat, pas de torpiller celui de l'autre. Hein.
Mais si, c'est une tactique.
Ils vont être meilleurs s'ils veulent être sélectionnés. Voilà.
En tout cas, vous allez
voter.
C'est
le Louis Enrique des grandes gueules, Christophe.
Et moi, je ne sais pas si j'ai le droit de le faire, mais j'ai voté. Et j'ai voté pour ça. Voilà.
Ah, très bien.
Je sais pas si ça influence les gens, mais voilà. Allez, tout de suite, on va retrouver.
Non, juste un peu.
Arnaud Souk. Géant à Solden, Arnaud, avec déjà une première grosse surprise, Arnaud.
Eh oui, une grosse surprise, puisque dès son premier run de la saison, Marco Odermatt est sorti. Voilà, c'est la deuxième fois d'affilée, parce qu'il était également sorti lors du dernier slalom géant de la saison. Avant ses deux sorties de piste, il avait quand même enchaîné 12 victoires. C'est dire à quel point il était favori, hein, Marco Odermatt, mais il ne gagnera pas. Donc, aujourd'hui, il faut dire que la piste de Solden, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une piste qui est très difficile. Il y a un mur, le mur du Rettenbar est parmi les murs les plus difficiles de tout le circuit de la Coupe du Monde de ski alpin. Il y a une neige, voilà, qui est vraiment très verglacée ce matin. Il a fait une faute d'intérieur, comme on dit dans le jargon, Marco Odermatt, et donc il a oublié tout simplement de prendre une porte. Il est sorti, mais il va bien. Pour l'instant, c'est Alexander Steen Olsen, le Norvégien, qui domine les débats devant le Croate Filip Zubtich et un autre Norvégien, Henrik Kristoffersen. Tout ce beau monde se tient en 8 dixièmes de seconde. On attend notre premier Français avec le dossard 22. Ce sera dans une vingtaine de minutes, Léo Anguenaud. Après, ce sera au tour de Victor Mufajandé, dossard 29. Cyprien Sarrazin, dossard 32. Auréconi, dossard 37. Et entre-temps, on aura suivi le grand retour 5 ans après de Marcel Hirscher avec son dossard 34 et sa nationalité néerlandaise.
On va suivre ça avec toi. Merci Arnaud.
RMC.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame?
Ah ça, la bonne question.
Novak Djokovic, j'aime beaucoup cette question.
Moi
d'ailleurs.
Moi aussi, je l'adore.
C'est
on m'appelle souvent.
On n'a pas vraiment la réponse, c'est ça le problème. Bon, on va poser une autre question du coup. Novak Djokovic a fait l'impasse sur le tournoi de Bercy qui débute aujourd'hui et ça pourrait être synonyme d'ailleurs de fin de saison parce qu'il n'est pas encore sûr de se qualifier pour les Masters de Turin. Avec la fin de carrière de Nadal, après celle de Federer, c'est le dernier des géants qui a déjà tout gagné. D'où cette question. Mais GG, est-ce que Novak Djokovic doit s'arrêter là pour éviter la saison de trop? Dans le coin droit, la team, on continue. Pascal Duprat, Marie Martineau, Sarah Pitkowski. Grosse team. Dans le coin gauche, seul contre tous ce matin, Christophe Sessieux.
On t'a payé combien, Christophe?
Ouais.
On t'a payé combien? C'est
le
indéfendable.
Sondage.
C'est indéfendable. C'est indéfendable.
Le sondage sur le compte X des grandes gueules du sport. Je vais dire ce que ça donne, les amis.
Vas-y, c'est haut la main, il continue, non?
La team, on continue 52%.
C'est tout?
La team, on arrête 48%. C'est très, très serré. Donc, Christophe va peut-être retourner les choses.
Je vais retourner, là. Je suis à 3 contre moi. J'ai aucune
chance.
Avec
l'aide, peut-être.
Avec les spécialistes de tennis qui sont là, qui aimeraient évidemment avoir le retour de Bjorn Borg, de John McEnroe, parce que il faut que les légendes continuent jusqu'à 99 ans, Sarah. Oui. Je t'attends sur les cours de retour.
Il y a un laps, hein.
Pour nous aider dans ce débat, Eric Salio est là. Salut, Eric.
Salut, les grandes gueules.
Novak Djokovic qui Eric va bientôt mettre à terme à sa saison.
On va se trouver.
Est-ce qu'on sent un manque, Eric, de motivation de la part du Serbe après cette année difficile?
C'est une bonne question. C'est vrai que la dernière apparition de Novak Djokovic remonte au 19 octobre et cette finale pour la troisième place remportée face à Rafa Nadal dans le cadre d'une exhibition Six King Slams. Mais quelques jours auparavant, le Serbe avait rendu les armes en finale d'un Masters 1000 quand même. C'est pas n'importe quoi face à Yannick Sinner. Et en Chine, il en avait dit un peu plus sur son état d'esprit après une saison compliqué où il n'a remporté qu'un titre, mais pas n'importe quel titre, la médaille d'or au jeu.
Je ressens toujours l'envie et la motivation de me confronter au meilleur sur le circuit. On verra combien de temps cela va durer.
Alors, il a encore faim, mais pas suffisamment pour défendre son titre la semaine prochaine à Bercy. Et si Djokovic figure dans les 8 premiers au classement ATP du 4 novembre, on ignore s'il se rendra au Masters de Turin. Cédric Pioline, le directeur du Tour de Bercy, a un avis pertinent sur le cas de Djoko.
Voilà, une année très compliquée pour lui, mais bon, aussi, d'une certaine manière, et avec le plus grand respect, le poids des ans qui arrive, qui tombe un petit peu sur les épaules. Donc, je pense que il n'est pas avec nous cette année. J'espère qu'on le reverra l'année prochaine pour le Rolex Paris Masters, en se disant que il faut en profiter parce qu'il a pu énormément de saisons devant lui.
Alors, la rumeur dit que le Serbe veut se régénérer pour avoir le temps de préparer le prochain Open d'Australie. On sait juste que sur son agenda, il y a une visite à Malaga pour suivre les derniers pas de Rafael Nadal. Et puis, le 1er décembre, encore une exhibition, il sera à Buenos Aires pour un petit match sympa avec Juan Martín del Potro. Après, il faudra transpirer pour être d'attaque à Melbourne où il a gagné 10 fois.
Alors merci Eric, tu restes avec nous évidemment peut-être pour aider Christophe dans ce
pas
débat. Djokovic doit-il s'arrêter là?
Aucune aide.
48% pour l'instant la team on arrête, Christophe. Faut faire remonter
48%.
Ça.
48%.
Ouais. T'es pas loin.
Non mais écoute, moi je sais pas si vous avez apprécié les fins de carrière de Federer blessé, qui attend, est-ce que je vais rejouer, est-ce que je vais pas rejouer, de Nadal, est-ce que je vais être de nouveau performant. Moi, ces fins de carrière de ces deux légendes me laissent un peu un mauvais goût dans la bouche. Évidemment que on va les fêter, que ce sont des immenses champions, mais je pense qu'ils ont livré le combat ou l'année de trop. Et c'est le grand problème des grands sportifs et des grandes légendes, c'est de ne pas savoir s'arrêter à temps. Et je pense que Djoko, il est un peu dans cette situation-là. Aujourd'hui, ce mec-là, il a quand même gagné 99 titres ATP, 24 tournois du Grand Chelem, 7 Masters, 40 Master 1000, l'or olympique, la Coupe Davis, la TP Cup. Il a passé 428 semaines à la place de numéro 1 mondial. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il le fasse encore triper pour aller sur un court le matin? Si, l'amour du tennis, c'est vrai qu'il l'a toujours eu.
Mais il a eu sa passion, Christophe.
Tu l'as dit, 99, c'est.
Ah oui, donc tu vois, une semaine de plus.
Il faut 100, il faut 100 titres.
Donc, un petit tournoi, il s'en va, alors, voilà. En gros.
Il peut gagner à Turin.
Il peut gagner à Melbourne et ensuite. Éventuellement. Mais, je me mets dans sa peau. Ce mec-là, il s'est toujours construit avec l'adversité et l'opposition avec Federer et Nadal. Aujourd'hui, il se retrouve esselé. Aujourd'hui, tout le monde va dire, ça va, papy, t'es content d'être là avec les jeunes? Mais non,
j'ai pas l'impression que ses adversaires le traitent de papy, moi.
Non, certains, je suis sûr que des dessineurs et des Alcaraz, ils doivent un peu être un peu plus caustiques à son endroit qu'il y a quelques années. Je pense que lui doit se dire, mais qu'est-ce que je fais là avec cette génération? C'est plus ma génération. C'est comme moi quand je suis avec les gamins, là, de la rédaction.
Tu veux t'arrêter?
Justement, j'allais en venir.
Non, mais moi, je suis pas. Si un jour je deviens numéro 1 mondial, là, j'arrête.
T'es quand même une légende
de RMC, voilà, non?
Pour moi, c'est. Je trouve que
moi,
c'est.
Moi, je te trouve assez convaincant sur le côté attention à l'année de trop, Pascal. T'es pas d'accord avec ça?
Non, parce que, en fait, vous avez la mémoire courte. Il est champion olympique en titre il y a longtemps, le titre de champion olympique. Ça fait combien d'années?
C'était le titre.
Non, mais ça fait 3 mois.
Donc là, tu fais 3 mois. Imagine, Pascal, tu es champion olympique, tu es sur le central de Roland Garros où Nadal a toujours été roi, et là, aujourd'hui, c'est toi le roi, et tu dis, messieurs, je m'en vais. Tu fais un peu comme Jean-Paul Belmondo, tac, 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 je m'en vais.
Non, mais voilà,
il l'a pas fait.
Un sportif n'est pas un comédien. Oh, les références comme Jean-Paul Belmondo.
Oui, c'est vrai.
Ouais.
Il y a des drôles de.
Non, mais moi,
vous avez pas connu.
En vrai, je te comprends. Non, mais
Alain Delon, t'as connu? Non,
non plus loin. Non, pas du tout,
t'as connu. T'as connu de loin.
Brigitte Bardot, c'est quelque chose? Non plus.
Jean Gabin, non.
Sombre histoire de phoque, bébé phoque. Moi, je peux comprendre ce que dit Christophe, éventuellement, sur le fait que c'est vrai que les fins de carrière de ces deux compères n'ont pas été très remarquables. Enfin, il y a des belles images, mais c'est vrai que sportivement, on les a vus beaucoup peiner physiquement. Et j'en parlais avec Sarah, qui m'a confirmé, Djoko, il n'est pas mal en forme. Hein. Il n'est pas en méforme. Je veux dire, il est peut-être même, avec l'hygiène de vie qu'il s'est imposée toutes ces années, il est quand même remarquablement en forme. Donc, on parle du poids des années, bien sûr. Mais
il a vécu
pas au point
galère,
de faire
Eric
arrêter quoi. Ouais. Oui, il a eu une galère, un genou, tout ça, mais ça l'a pas empêché d'être champion olympique. Enfin, je veux dire, il a quand même réussi à soigner, à revenir dans un temps record. Donc, moi, juste vu de l'extérieur comme ça, ça me fait rêver qu'il continue parce que je le vois
et
pas sur le déclin.
Au troisième tour, ah non, parce que tu penses que justement, il peut faire des choses même pendant les grands tournois.
Moi, j'espère que Eric va voler à mon secours, mais ce que je voulais simplement dire, pour un passionné de tennis, je suis passionné de tennis, moi franchement ça m'enchante pas qu'il s'arrête. Plus je le vois, plus je suis heureux de le voir.
Mais justement,
et en
si
plus
tu
je trouve qu'il est compétitif.
T'as pas envie de le voir souffrir.
Non, mais on voit le même.
Le voir souffrir. Je pense qu'il a une capacité de résilience, et tu l'as bien exprimé à l'instant, Marie. Il mène une vie d'asset, donc il est entièrement dévolu à son sport. Et là, il choisit simplement, il a un rythme un peu moins soutenu, il choisit ses apparitions de manière à être performant
comme
en 2025.
Oui, il y a une usure mentale et physique qui est évidente, et puis il veut profiter de ses gosses. On sait qu'il a une résidence en Andalousie, donc il veut kiffer un peu la vie, parce que pendant très longtemps,
justement,
il était absent, ses gosses ne le voyaient pas, donc ça c'est important. Ses meilleurs résultats, il les a obtenus quand ses gosses étaient dans les tribunes ou en face de lui. Et pour lui, c'est une motivation. Donc là, il va kiffer. Je pense qu'il va pas jouer le Masters. Et puis, il va s'entraîner parce que il a ça c'est dans son ADN.
Tu le vois continuer.
Et moi,
combien de saisons alors?
Là, on pourra refaire un débat à l'issue de l'Open d'Australie.
Ouais.
S'il se plante à l'Open d'Australie, je pense qu'il va mettre au clignotant très vite.
Ouais. Ah, d'accord.
Sarah.
Alors, qui sommes-nous pour lui intimer d'arrêter sa
gueule du sport, quand même.
Oui, et ben justement, je vais juste vous donner.
Si tu vas à Lisbonne, tu ne donnes ton avis sur rien. Parce que qui va te donner de l'autorisation de parler d'Mbappé tout à l'heure? C'est la même chose. À ce moment-là, tu fais quoi? Tu mets de la musique et tu mets les disques et tu vas. Et tu roupilles le matin.
Mais ce type, il a la morve, ce type Christophe-là. Mais vraiment, incroyable. Tout ça pour récolter 2 points de plus.
Allez,
Kylian, allons-y. Non, ce que je veux dire, c'est que avant de dérouler des arguments pour Novak Djokovic, je vous rappelle que Nadal, on lui disait, mais quand est-ce qu'il va arrêter? Il est plus capable de mettre deux pieds devant l'autre. En 2022, il est allé chercher son 14e titre du Grand Chelem à Roland-Garros.
Et bien après, et il a continué encore.
Oui, non, mais peu importe.
On a vu la souffrance que ça a pu être pour lui.
Mais peu importe, ses blessures, on ne pensait jamais qu'il allait revenir. Il est allé chercher son 14e titre.
Et vous êtes
ce genre de type-là, ce genre de type-là, et notamment Djokovic, lui particulièrement, avec la comparaison
mais qu'est-ce que
qu'il a.
Tu veux qu'il aille chercher
mais laisse-moi terminer.
Mais qu'est-ce qu'il peut encore, de
mais
quoi il peut encore.
Tu veux bien me laisser terminer, Christophe?
Non.
Il est en quête d'une forme d'éternité, de reconnaissance qu'il n'arrive pas à avoir face à Federer et Nadal.
Mais
non, justement non.
C'est lui le
GOAT. Qu'est-ce qui va faire la différence pour avoir une reconnaissance?
Je te dis juste qu'il va faire la différence. Il a 24 titres du Grand Chelem, il y en a une qui en a 25, c'est Margaret Court. Il court juste à côté, il court juste derrière des records. Non, mais je.
Alors il trouvera toujours.
Mais non, il a 99 titres. Mais bien sûr, il faut bien des motivations. Aujourd'hui, les motivations, c'est peut-être de battre le record de Jimmy Connors qui est à 109 titres remportés.
Il n'y arrivera pas.
Peut-être qu'il n'y arrivera pas, mais c'est un objectif pour lequel il peut courir. Le nombre de victoires, il est à 1116. Il veut peut-être battre celui de Federer à 1250. Il faut aller chercher des objectifs.
Tu n'aurais pas aimé t'avoir comme chef dans une galère.
Mais c'est mieux.
Plus le nombre de coups de rame que tu devais donner.
Sérieux, tu veux bien me laisser finir.
Est-ce que tu éduques tes enfants comme ça?
Absolument.
Avec ces objectifs-là?
Absolument.
Dis donc, les pauvres.
Mais ils ont le temps, pour l'instant, ils sont jeunes. Non, mais aujourd'hui, il va se fixer des objectifs. Et il va construire sa saison autour de quelques objets. Il a joué 10 tournois. Il n'en jouera certainement pas 10 l'année prochaine. Il va se fixer juste des objectifs pour essayer encore une fois d'avoir encore plus de reconnaissance et d'être le meilleur de tous les meilleurs.
Ça lui met une pression énorme, comme disait Christophe. Parce que ça veut dire, pour bien finir, il faut finir comme ça, magnifiquement.
Et
pas éliminé au troisième tour par un sombre inconnu.
Non, mais pas un sombre inconnu. Il fait finale à Shanghai contre Sinner. Il perd à Wimbledon, il perd contre Alcaraz, il perd sur les meilleurs du monde.
Il est là, il est
et
donc,
c'est normal
ça,
à un moment. C'est normal, il y a les meilleurs qui sont en train de lui passer tout doucement.
Mais qu'est-ce que tu peux obtenir de plus, justement?
Tu peux obtenir d'aller chercher un
titre de plus.
Mais de durer
plus.
Ça, tu sais pas ce que ça veut dire.
Ah bah non,
à part le tournoi de ping-pong.
Toi non plus, gagner Wimbledon, tu sais pas non plus.
À part le tournoi de ping-pong dans ton jardin. Et faire durer. Tu t'as rien gagné. Donc, ils sont pas faits comme nous, ces gens-là. Ils ne sont pas faits comme nous, tout simplement.
Et ils peuvent faire durer cette période où il n'y a plus que lui, où il n'existe plus que lui.
Exactement.
Et qu'il n'y a plus les deux autres, tu vois. Et cette période-là, ben, pour lui, elle est quand même un peu bénie parce que c'était bien d'être super performants les trois. Mais lui, il aura prouvé, laisse-moi finir, Christophe, il aura réussi à prouver au monde qu'il a été aussi performant, si ce n'est plus performant, et qu'en plus, il a duré plus longtemps. Et voilà, c'est.
Alors,
c'est
arbitre de ce duel, de ce bras de fer.
Par rapport à
Eric Sarah. Écoutons un vrai spécialiste, Marie, ça va nous changer.
Non, c'est pas Shanghai, c'est lors de cette fameuse exhibe. Une petite conf de presse et il a dit, il avait Nadal à côté de lui, que une partie de lui s'en allait parce que Federer avait dit la même chose.
Mais quand il est à côté Nadal, il peut pas dire le contraire.
Nadal a dit la même chose, pardon, quand Federer a pris sa retraite. Et ben là, il y a un manque. Les deux stars lui manquent terriblement. Il a plus rien à aller chercher. Avant, tu jouais une finale de Chelem contre ces mecs-là, mais ça le sublimait.
Non mais
la même excitation d'aller jouer une finale de Chelem contre Alcaraz ou Sinner. Je suis désolé.
C'est quoi la dernière finale contre un de ces deux-là dans Grand Chelem? Ça date de quand? Aller chercher.
En tout cas, j'ai l'impression qu'Eric Salio, il a basculé dans la team. Malheureusement, Christophe, tu vas devoir te contenter de ça, mais c'est déjà peut-être pas mal. Tu te contenteras de l'appui d'Eric Salio parce que tu as perdu.
Je m'en fous.
Tu as perdu. Bras de fer. Eh oui, tu n'as pas réussi à faire remonter la team. On arrête.
C'est
la
combien de points il a perdu?
On achève bien les chevaux. Vous savez, vous me faites penser à ça.
Il n'a pas réussi à faire bouger
les gens qui faisaient des marathons de danse dans les années 30 aux États-Unis. C'est-à-dire que jusqu'au bout, tu voulais. Ils dansaient, ils dormaient pas pendant 3 jours, 4 nuits. Ils étaient là pour essayer de gagner 3 sous bas. Vous me faites penser à ces gens-là. C'est terrible.
2021, la dernière finale. 2021, qui était la dernière confrontation entre Djokovic et Nadal en Grand Chelem, c'était à Roland Garros.
Bon, bah tu vois, il s'est pas arrêté depuis quoi.
Merci beaucoup Eric. Eric, salut, merci.
Continuons jusqu'à 80. On suivra cet après-midi la finale de Joe. Excusez-moi, je l'appelle Joe.
MPC Perica.
Voilà.
Joe. Finale où
c'est contre Shelton à Bâle.
ATP 500.
Et on en parlera peut-être si le débat de, de Sarah est retenu.
Les nouvelles stars du tennis français.
Exactement. Allez, on revient dans un instant. Juste, je vous dis au passage quand même qu'il ne faut pas oublier le beau, le très beau cadeau qu'on vous offre ce matin dans les grandes gueules du sport. Vous pouvez remporter.
Ah, c'est le ski ?
Non, oui, le séjour d'une semaine au domaine skiable des Cibelles au cœur des Alpes avec Goélia. Un séjour pour 4 personnes, forfait inclus pour remporter ce séjour. Ski au 7-32-16.
En plus, elle est en tête.
Ski au 7-32-16. Allez-y, dans un instant. Le zapping. Non, pas du tout. Dans un instant, la punchline. On va parler de Kylian Mbappé et il y aura aussi, bien sûr, les grandes gueules qui contre-attaquent dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est bientôt 10h30 sur RMC. Vous écoutez les grandes gueules du sport ce dimanche. Marie Martineau, Sarah Pitkowski, Pascal Duprat, Christophe Cessieux. Dans un instant, vous le savez, les grandes gueules prennent les commandes de l'émission. Les GG contre-attaque, elles vous ont proposé un débat sur le compte X des grandes gueules du sport. Et pour l'instant, c'est ultra serré. Alors là, vous avez encore un quart d'heure pour voter. En tête, Sarah Pitkowski pour parler d'Arthur Fils et d'Empechi qui régale. Ensuite, c'est Pascal Duprat qui veut taper du poids sur la table après la soirée difficile qu'a vécu un rugbyman portugais. Et puis ensuite, en troisième position, c'est Marie Martineau, 22%, tu te défends bien, devant Christophe Cessieux, 20%. C'est très très serré, vraiment.
Est-ce que je peux dire quelque chose pour faire basculer en ma faveur?
Là, pour l'instant, t'es en tête, donc il n'y a pas
rien à basculer. Des quatre sujets, la seule qui a un sujet optimiste, c'est moi.
Attention, non, mais moi, c'est optimiste.
J'ai peur, tu risques de perdre des points là en disant ça.
Mais non, je parle d'optimisme.
Oui,
on est bien d'accord?
Allez, voilà. Avant ça.
Je parle pas de catastrophe. Voilà.
Avant ça, on va parler de.
Bisounours, quoi.
Du classico d'hier.
Pascal, tu te les informations sont toujours négatives. Je te sors un sujet positif et bim. Non mais vraiment.
C'est l'heure de la punchline GG tout de suite. Elle est signée des médias espagnols qui ont découpé Mbappé après l'humiliation reçue par le Real Madrid, battu 4-0 par le Barça sur sa pelouse hier. Écoutez.
RMC, la punchline GG.
Cette éternelle guerre contre le hors-jeu a semblé entrer dans la tête de Kylian. Son premier classico s'est terminé en cauchemar. Du 31 octobre au 26 octobre, Halloween est arrivé quelques jours plus tôt pour le Français. On n'a pas fait venir Mbappé à Madrid pour qu'il échoue comme il a échoué ce soir. Il doit se réveiller et commencer à comprendre que Madrid, ce n'est pas le PSG.
Voilà, plusieurs punchlines tirées des journaux et de la télé espagnole hier soir. Mbappé qui a marqué un but refusé pour hors-jeu. Il a d'ailleurs été hors-jeu à 8 reprises. Il a raté aussi un face-à-face. Bref, il est passé complètement à côté de ce grand rendez-vous. Alors cette question, les grandes gueules du sport ce matin, Mbappé est-il un boulet pour le Real Madrid? Oui ou non, Marie Martineau?
Non.
Pascal Duprat?
Non, mais casse-tête pour Ancelotti. Ah,
Christophe Cessieux?
Non.
Sarah Pitkowski?
Bah non aussi.
Il y aura quand même débat, vous inquiétez pas. Avant de vous entendre, on accueille Edgar Grelot qui a commenté la rencontre hier soir pour RMC. Salut Edgar.
Salut François, salut GG, salut tout le monde.
Salut. Ouais, parce que ce matin, toi tu as lu la presse espagnole. Est-ce que c'est le coupable numéro 1 de la déroute madrilène?
Oui, le classico pointe du doigt Mbappé. Voilà le titre, par exemple, d'un article de AS entièrement dédié à Kylian Mbappé ce matin. Il est au centre de toutes les critiques ici à Madrid. Son match est cataclysmique, inquiétant, écrit AS qui dresse ce constat dans sa dernière ligne. La question de l'adaptation de Mbappé à Madrid commence à être délicate parce que jusqu'à présent, c'est vrai que les médias madrilènes étaient un petit peu cléments avec Kylian Mbappé, mais tout ça, c'est vraiment terminé après hier soir. Marca, on l'a entendu dans le petit teaser, parle d'un cauchemar, dit qu'Halloween Chine est arrivé quelques jours plus tôt pour le Français et tout simplement qu'il n'est pas au niveau auquel on l'attendait. Ça, c'est du côté de la presse madrilène. Alors, vous imaginez bien qu'on fait encore moins de cadeaux du côté de la Catalogne. Kylian Mbappé s'est ridiculisé de manière historique lors de son premier Classico. C'est Sport qui écrit ça. Ce fut l'une de ses pires soirées de foot professionnel, continue le média catalan qui écrit que Kylian Mbappé est lent, nerveux, imprécis. Des critiques de ce genre, honnêtement, on en trouve à l'appel dans les médias ici. Un peu plus de deux mois après son arrivée, Kylian Mbappé est le visage d'une humiliation historique du Real Madrid.
Alors Edgar, tu peux intervenir quand tu veux, hein. Tu restes avec nous en direct de Madrid. Je rappelle la question, est-ce que c'est un boulet pour le Real? Alors, elle est volontairement provocatrice. Évidemment, c'est peut-être pour ça que vous avez dit non autour de la table. Mais comme le disait Pascal, ça peut être compliqué ensuite pour Carlo Ancelotti. Avant de te donner la parole, Pascal, toi qui es le spécialiste ici, Marie, t'as dit ouais. Non, c'est pas un boulet.
Non, je crois pas que ce soit un boulet. Je crois que ça reste un être humain. Et là, oui. Il traverse une espèce de passe très compliquée, que ce soit sur le terrain, mais surtout en dehors du terrain. Cette histoire qui dure avec le Paris Saint-Germain, on m'enlèvera pas l'idée que ça doit l'empêcher un petit peu de dormir. Cette histoire qui est sortie sur cette potentielle agression sexuelle, ça doit clairement aussi l'empêcher de dormir, qu'elle soit vraie ou pas. C'est calamiteux. Tu restes une éponge quand t'es un athlète de niveau, les trucs qui sont... et tu dois être vraiment très performant et tout ce qui est à côté a un impact direct sur ta performance. Alors, je me garderai bien de juger ce qu'il a fait hier sur le terrain, mais je me dis si c'est si calamiteux, 8 hors-jeu, comme ça a été dit, de rater des face-à-face, d'être vraiment à côté de ses pompes, c'est pas une méforme, c'est pas un... Tu vois, c'est que vraiment, là, ça ne va pas. Et donc, je pense que...
Donc, ça peut devenir un boulet pour Carlo Ancelotti. Mbappé pas en forme du tout.
Non, parce que
au fond du trou comme tu le
ouais je crois pas que ça vienne du fait qu'il est dérivé qu'il ne s'entraîne plus correctement ou qu'il ait plus envie de jouer au football ou que je crois juste que bon,
il
psychologiquement
s'est un peu égaré malgré tout.
Ah ouais, ok.
Il s'est quand même égaré, il se disperse, c'est pas ce qu'on a connu de Mbappé.
Ouais, ce qui est bizarre,
football,
ce qui est surprenant
hier,
c'est qu'il
hier,
c'est
en
qu'il vit
le match,
ça maintenant
il avait la pression. On sentait qu'il avait la pression. Mbappé. Ça se voyait dans son attitude dès le début du match. Il a été hyper motivé. Mais par contre, là où il m'a surpris désagréablement, c'est l'absence de réflexion tactique. Quoi. Il est toujours
hors-jeu. Mais est-ce que, en fait, le phénomène du hors-jeu, c'est quand tu veux en mettre trop, que tu veux aller trop vite, en fait.
Oui,
on est d'accord.
L'impatience, c'est aussi,
l'impatience de vouloir.
Pas encore dans le collectif aussi.
Oui.
C'est ça. C'est que ils ont du mal à être connectés. Et à mon avis, ça vient principalement du fait qu'ils jouent pas son véritable poste.
Mais comme d'autres
Mbappé,
ne jouent pas.
Il est bon à la place de Vinicius, mais Vinicius, il est
indéboulonnable.
Oui, mais donc c'est pour ça qu'on. Enfin, je suppose que c'est pour ça que tu réponds non. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être le seul à blâmer sur cette catastrophe, cette défaite honteuse du Real à domicile. C'est que il y a Vinicius qui est normalement celui qu'on devrait nommer Ballon d'Or dans quelques jours, et un Ballon d'Or qui fait une prestation comme ça, tu dis quoi?
Pourtant, tout le monde vise Mbappé. Tout le monde le vise ce matin.
Et Bellingham qui faisait la différence les années précédentes.
Oui, mais il joue pas son poste, justement. C'est là où c'est un problème.
Ancelotti est obligé
de faire en termes d'équilibre.
Et il fait en fonction de Mbappé, Pascal, on est d'accord.
Voilà, il veut mettre Mbappé dans les meilleures conditions. Ça me semble tellement normal.
Tu sais, Pascal, on avait fait un sujet quand je me souviens d'un sujet dans les GG. Quand on avait dit ouvertement
dans les GG.
Oui, un sujet Mbappé dans les GG. Si, non. Où on avait été, où il était confirmé qu'il était transféré, en tout cas qu'il partait au Real Madrid, on avait fait un sujet en disant mais il va jouer où en fait? C'est où son poste? Est-ce qu'il prend pas la passe de quelqu'un? Et on avait eu ce débat entre Vinicius et Mbappé en disant il va falloir faire un choix.
Ça peut pas être qu'un problème de positionnement là sur le match d'hier.
Non mais t'as dit
c'est quoi?
C'est un problème de connexion, un problème de réflexion.
C'est quoi
ce problème? Moi il me semble que la réflexion, elle n'était pas là hier, parce qu'il faut le foot, c'est de la réflexion vraiment. Et Mbappé en fait preuve depuis le début de sa carrière. C'est tellement il affole les compteurs. Et là, on a l'impression que le garçon, il est perdu.
Mais qui réfléchit pas? Mais
c'est toujours hors jeu.
Mais c'est à qui de réfléchir? C'est à Mbappé ou c'est à Ancelotti de réfléchir?
Mais c'est aux deux, mais c'est surtout Mbappé sur le problème tactique que posait Barcelone hier. Mbappé a pas su répondre. C'est de sa faute s'il est toujours devant les défenseurs. Donc il est tout le temps hors jeu. C'est 8 sur 12. Il y a eu 12 hors jeu sifflés contre le Real. 8 ont concerné Mbappé.
Donc on en vient bien au fait qu'il est sous pression et qu'il est pas bien. Il est pas bien dans ses baskets.
Après la deuxième chose, c'est qu'en deuxième mi-temps, Mbappé, il a joué comme la mauvaise version de Mbappé au PSG. Que pour lui. Que individuellement. Donc en fait, je pense que ça trahit vraiment un mal-être, vraiment.
Alors Christophe.
Oui, non, c'est ça, mais c'est ce que je voulais dire. Tous les Mbappéologues, il y en a quand même un paquet en France et en Espagne. Certains nous disent que en ce moment et depuis quelque temps, il a une vie dissolue, qu'il s'entraîne plus aussi bien qu'avant, qu'il sort plus régulièrement. Que le cas de Stockholm ne serait pas un problème isolé. Moi, je ne reconnais plus le joueur qui nous a fait rêver il y a deux, trois saisons en arrière. Ce n'est plus du tout le même. Ce n'est plus le même joueur aujourd'hui. Heureusement que le Real Madrid n'a pas eu à payer un transfert à 100 millions d'euros. Bon, je sais qu'il a pris une grosse prime à la signature, mais ce joueur-là, ce n'est plus le même. Et en équipe de France, c'est la même chose. Au Real, c'est la même chose. Au PSG, c'était la même chose l'année dernière. Mbappé n'est plus Mbappé. La semaine, il y a 15 jours, je crois, le débat, c'était a-t-on perdu Mbappé dans les grandes gueules du sport. Et moi, je répondais oui. Et alors tout le monde dit mais non, pour le football, vous allez voir au Real, il va tous les éclater. Ouais. Ben la preuve est là pour l'instant.
Malgré tout, son bilan, il est pas neutre. C'est 8 buts en 14 matchs, quand même.
Il y a
beaucoup de pénalties, je vous l'accorde.
Considéré comme l'un des 2-3 meilleurs joueurs de la planète. Est-ce que tu le considères aujourd'hui comme l'un des 2-3 meilleurs joueurs de la planète, Pascal?
Je pense que potentiellement, il l'a déjà prouvé. Il va le prouver.
Je voudrais abonder
dans ton sens. Et je vais prendre un simple exemple. Mais en fait, Mbappé, il fait bien ce qu'il veut. Et ce que je dis, il a raison de s'en foutre. Mais par exemple, Mbappé, il a racheté le stade Malherbe de Caen. Le stade Malherbe est en difficulté aujourd'hui. Non, mais comment Mbappé peut gérer sa carrière professionnelle et gérer le stade Malherbe? Parce qu'aujourd'hui, ils sont dans les derniers, le stade Malherbe. Comment tu peux faire à 24 ans? Mais c'est quand même son argent. C'est lui qui s'investit. Il est bien obligé d'être présent. Il peut pas être de tous les fronts.
Il faut savoir.
C'est ça que tu essaies de nous dire. Il s'est dispersé.
J'ai l'impression qu'il faut, il faut sélectionner ses combats. Et son combat, c'est sa carrière. Il faut qu'il se concentre sur sa carrière. Je dis pas qu'il le fait pas. Moi, j'ai un avis complètement global sur ce que je vois de Mbappé au travers de ce qu'il dit. Parce qu'il prend la parole sur tout. Bon, il apprend il a le droit. Moi, je veux bien, mais t'es footballeur professionnel. Tu gagnes des saladiers. Et tu penses qu'il y a une chose, quand tu reviens de blessure, c'est aller faire la piste. Ça va pas. Ça va pour le foot amateur.
Il faudrait une cure d'austérité.
C'est pas possible. Non, mais moi, je sais pas, on critique Djokovic qui veut continuer sa carrière, qui mène une vie d'asset. Et puis, on voit des sportifs qui se dispersent.
On l'a pas critiqué là-dessus.
Pascal.
Pas là-dessus.
Non, à peine. Pas à peine, Christophe.
Sérieux. Juste demande. Alors là, faut réinterpréter l'histoire, quoi. Révisionniste en fait, Pascal.
Jusque là,
tu n'as de cesse que m'enfoncer.
En direct à Madrid, parce que demain il y a quelque chose qui peut encore plus appuyer sur la tête de Mbappé, qui est déjà pas très bien. Vas-y. C'est que Vinicius pourrait être Ballon d'Or, la même équipe.
Oui. Et là,
ça peut avoir un impact forcément dans les équilibres de ce vestiaire qui est si particulier.
Oui, parce que on se demandait qui allait être le leader, vous l'avez dit, on se demandait avant qu'il arrive qui allait être le leader offensif de cette équipe. Pour l'instant, Vinicius Junior, même s'il fait un début de saison compliqué aussi, il a montré des choses que Kylian Mbappé montre pas, et le triplé qu'il a mis contre Dortmund cette semaine, ça a un petit peu ça a montré à tout le monde le joueur qu'il était, parce que c'est vrai qu'on avait oublié sur certains matchs qu'il était capable de faire ça, et il a remis les pendules à l'heure, j'ai envie de dire. Et là, il va gagner le Ballon d'Or très probablement demain, c'est demain la cérémonie du Ballon d'Or. Et quand tu as un joueur d'un côté qui est autant en méforme que Kylian Mbappé et qui a autant de mal dans le jeu, et que juste à côté de lui, littéralement à quelques mètres, ils sont même un peu trop proches des fois, tu as un joueur qui gagne le Ballon d'Or, c'est pas compliqué. Le calcul est très simple. L'option numéro 1, c'est Vinicius. Et d'ailleurs, ça se sent aussi dans la façon dont joue le Real Madrid. Celui qui est mis dans les conditions pour faire briller son jeu et ses caractéristiques, c'est Vinicius Junior, parce que c'est lui qui déboule côté gauche. C'est pas Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, on lui demande quasiment de jouer numéro 9 et ça s'est vu hier, il est pas vraiment à l'aise dans ce positionnement, il sait toujours pas exactement comment se placer, comment partir dans les bons tempos, même si hier c'était un cas extrême, il est pas mis dans les meilleures conditions là où Vinicius lui vous avez dit que l'équipe était construite enfin qu'on faisait en sorte de mettre Kylian Mbappé dans les meilleures positions, c'est pas toujours le cas parce que c'est surtout Vinicius qui a le côté gauche.
Mmh. OK, bon merci beaucoup Edgar, on va suivre ça avec vraiment beaucoup beaucoup d'intérêt ce qui se passe à Madrid.
Ouais, puis un petit débat la semaine prochaine, non ?
Bah ça faudra voir avec Jean-Christophe Drouet.
Oui.
Bien sûr, parce que t'as envie.
Il y aura un petit truc. Il y a quoi comme match là important pour le Real, Edgar là ?
Tous les matchs sont importants.
Cette semaine, et j'ai presque envie de dire pas de chance pour Kylian Mbappé, il y a pas de match pendant la semaine. Le prochain match c'est le samedi à Valence, donc on va parler que de cette déroute du Classico pendant toute la semaine jusqu'à Valence.
On en fera le débat le week-end prochain. Ouais. N'hésitez pas. Merci beaucoup Edgar. Merci et bonne journée du côté de Madrid. Vous restez avec nous hein, sur RMC parce que les grandes gueules du sport reviennent dans un instant avec les grandes gueules qui contre-attaquent. Vous avez encore quelques minutes, mais vraiment pas beaucoup, pour aller voter pour votre débat préféré. Ça se passe sur le compte X des grandes gueules du sport. Et pour l'instant, je vous dis une seule chose, c'est Sarah Pitkowski qui est en tête. Alors si vous voulez la renverser, c'est maintenant ou jamais. Allez, on revient tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
10h47, vous écoutez les grandes gueules du sport. Marie Martineau, Sarah Pitkowski, Pascal Duprat, Christophe Cessieux ce matin. Dans un instant, les GG passent la seconde, oui, avec un débat autour de l'Olympique de Marseille, puisque vous le savez, c'est une journée spéciale Marseille-Paris-Saint-Germain sur l'antenne d'RMC avec des invités vraiment tout au long de la journée jusqu'au coup d'envoi de ce match à 20h45. C'est peut-être l'année ou jamais pour Marseille de battre le PSG. Venez nous dire ce que vous en pensez au 32-16 dès maintenant. Mais d'abord, vous le savez, à 10h47 maintenant, ce sont les GG qui prennent les commandes de l'émission.
RMC, les GG contre-attaquent.
Alors, vous m'avez rattrapé ou pas ?
Les grandes gueules du sport qui vous ont proposé un débat.
Elle crâne.
Et là, c'est vous. Seulement la deuxième fois que je gagne.
Attendez, c'est vous qui. Là, tu le suspectes. C'est vous qui avez choisi le débat préféré. Je vous donne les résultats en partant par la quatrième place. Et la quatrième place, bon dernier. C'est toi, Christophe.
Ouais, je suis le dernier.
Avec ton débat sur les numéros 9.
Pour toi, je sais que dans cette émission, le sport n'intéresse plus les gens, en fait.
Arrête. Non,
j'ai bien compris.
N'importe quoi. C'est peut-être la façon dont tu en
parles. Le sujet de Sarah n'est pas
un vrai sujet.
14%. 21%, troisième place pour la moto. C'est pas mal, quand même.
Oui.
Parce que j'y croyais pas trop à ce débat.
Ouais, mais si, je crois que les gens, ils se sont passionnés.
Zarco et Quartararo, pas au niveau.
Non, mais les gens sont passionnés pour la moto. Parce qu'il y a des Français qui gagnent.
Il y aurait un vrai débat à faire aujourd'hui, dans les semaines à venir. C'est est-ce que la moto est retombée à plat
C'était l'idée de ce que je voulais discuter avec vous aujourd'hui.
Le débat, la réponse, tu l'as déjà. Il n'y a pas besoin de faire un débat.
Et est-ce que ça peut repartir ?
Ah, ça c'est. Ouais. 32%, c'était très serré. Deuxième place pour Pascal Duprat, mais ça joue à 1%, c'est incroyable. Pascal Duprat qui voulait revenir sur la soirée et le dérapage de Samuel Berquès, le joueur de rugby. On va écouter donc Sarah pour son débat sur Arthur Fils et Giovanni Pecci-Péricard. Pecci-Péricard qui est en finale d'ailleurs aujourd'hui du tournoi de Bâle.
Absolument.
Fils était demi-finaliste. Rapport avec Victor Pecci, non ?
Non.
Et pour toi, ça y est, c'est les nouveaux mousquetaires.
Alors, pour moi, c'est les nouveaux mousquetaires. J'en suis pas là, c'est pas ce que j'ai dit encore une fois.
C'est comme ça que t'as teasé ton bat.
Les nouveaux Rising Stars peuvent-ils nous faire oublier ?
Ok.
On est d'accord ou pas ?
Ouais. Donc, c'est pas mal.
T'es révisionniste aussi.
Heureusement
qu'elle a des notes, en fait.
Vous feriez dire des trucs qu'elle a pas dit.
Exactement. Non, je vais vous parler de ces deux jeunes garçons. Donc, Arthur Fils est le plus jeune, il a 20 ans. 20 ans, tu sais que c'est 2004, Christophe. Ça fait mal.
Et
Giovanni Mpecci-Péricard, il est 2003, il a 21 ans. Et ces deux joueurs-là, lundi prochain, donc demain, on va en avoir un qui va être dans le top 20, c'est-à-dire Arthur Fils qui devrait être 18e ou 19e.
Ah oui.
Et Mpecci, au pire, s'il perd en finale aujourd'hui, il devrait être 37e mondial. Et mieux si effectivement il bat Shelton. Pourquoi je voulais vous en parler ? Parce que du potentiel, c'est une chose. On n'arrête pas de dire qu'ils ont du potentiel. Mais il y a des chiffres qui parlent. Et c'est sur ces chiffres-là que je voulais vous alerter un petit peu. Déjà, Arthur Fils, il est numéro un mondial des ATP 500. C'est-à-dire que c'est le meilleur joueur qui a glané le plus de points dans les ATP 500. ATP 500, tu as donc les Grands Chelem, les Master 1000 comme
c'est
ceux que, le
c'est,
Rolex.
C'est les tournois, ils font pas les cadors, c'est
ah
ça
si,
les...
Ah si, 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 ils le font. Si, si, ils le font. Donc il a le plus grand nombre de points. Et je vais vous faire sourire, il a un bonus pour ça.
Il y en a certains qui préfèrent aller faire des exhibitions plutôt que des ATP 500.
À 6 millions de dollars. Lui, il en a pris 600 000. C'est un peu moins. Non, ça, c'était pour la petite anecdote. Non, ce que je veux dire, c'est que à 20 ans, il est numéro un mondial. C'est lui qui a le mieux joué sur la longueur sur cette catégorie de tournoi. L'année dernière, en 2023, quand il remporte son premier tournoi ATP, c'est à Lyon. Et il est le plus jeune Français à 19 ans à remporter son tournoi professionnel. C'était Gasquet en 2004. C'est des chiffres références. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être les meilleurs mondiaux et numéro un mondiaux, mais il y a des signes qui sont distinctifs. Et comme par hasard, l'année dernière, Giovanni Mpeci Pericard va gagner son premier titre, je vous le mets dans le mille, à Lyon aussi. Mmh. Il reprend son premier titre. Il fait quand même un huitième de finale à Wimbledon. Et il est donc en finale pour la première fois d'un ATP 500. Ces deux joueurs-là ont des structures qui sont assez solides. Ils ont une progression qui est annoncée après. Le next step, ça va être comment ils vont pouvoir intégrer durablement le top 20 et d'aller chercher ce top 10 que nos quatre mousquetaires, eux, ont tous réussi à avoir. Mmh. Et là, c'est ce qui va se passer dans les, allez, un an, deux ans, c'est-à-dire la programmation des tournois. Comment vont-ils se programmer pour aller jouer dans les tournois qui prennent le plus de points, c'est-à-dire les Master 1000 et les Grands Chelem? Pour l'instant, on est d'accord, ils ne sont pas capables de passer la première semaine de Grand Chelem. Mais c'est là où ils doivent progresser. En tout cas, ils en ont les capacités physiques, mentales. Mpeci, hier, il a servi une seconde balle à 235 km/h.
Allez là!
Donc, voilà, c'est en ça que je voudrais qu'on ait un peu d'optimisme et de dire que voilà.
Mais t'es pas la seule, Mathieu Dandert a dit, on avait fait un débat il y a trois semaines.
Il les voit, aller loin.
Les accrocher le top 10, c'est peut-être même mieux.
Tout à fait.
Dans les années à venir. En tout cas, en
non, mais c'est intéressant cette construction comme ça, étape par étape.
Exactement. Et il ne faut pas qu'il y ait d'anicroche. Les anicroches, c'est la programmation pour ne pas trop jouer, ne pas se disperser dans des choses qui vont aller chercher plus du people et autour du tennis, et la programmation des tournois. Et puis après, le point qu'on ne connaît pas, comme tout le monde, c'est les blessures.
Oui.
C'est-à-dire comment essayer de gérer au mieux
la carrière,
les moins bien, pour toujours pouvoir continuer. J'oublie pas Hugo Humbert, qui est d'une génération un peu plus âgée, qui est aujourd'hui le meilleur Français, qui est 26e mondial. Mais encore une fois, l'émulation, c'est ce qui a marché avec nos mousquetaires, c'est qu'ils se tiraient vers le haut. Et d'avoir trois joueurs très vite dans le top 20, parce que je pense que Giovanni peut y aller très rapidement. On peut voir une embellie du tennis autour
des mousquetaires. Je sais que c'est pas ce que t'as dit, mais
font du souci à se faire.
Non, mais j'allais dire, c'est ça. Sans vouloir faire la rabat-joie à Alcaraz, il a que 21 ans aussi. Il est déjà tout là-haut, tu vois. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop tard quand même?
Et on a Sinner qui a 23 ans.
Ouais.
Oui, mais là, tu parles de gens exceptionnels. Ils sont numéro 1, numéro 2 mondiaux.
Sont exceptionnels.
Là, on parle pas d'être dans le top 3. On parle d'être dans le top 10.
Mais c'est pas, top 10, c'est pas neutre. Même top 20 en tennis.
Oui, bien sûr. Toi, tu y crois, Pascal?
Ouais, mais en fait, Sarah, j'ai kiffé tout ce que tu as dit là. Ouais, ils ont bien fait de voter pour toi, en fait.
Ah ben, je te remercie, Pascal.
Non, franchement, c'était très intéressant ce que tu as dit. Cette faculté, parce que tu connais ce sport, faculté d'aller step by step, c'est vachement important. Et aussi les carrefours qu'il faut savoir prendre. Voilà, les bons tournois, aussi pas trop se disperser. Ça me rappelle la dispersion d'un champion dans le foot.
Oui, voilà. mais c'est faut, là où
donc,
c'est...
pas suivre cet exemple-là.
Oui, c'est là où la difficulté s'oppose, peut-être plus que l'entraînement. Et la progression technique, c'est savoir rester dans un couloir et ne pas se disperser. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, en 2024, pour un sportif de haut niveau, je pense que c'est plus hyper dur difficile aujourd'hui d'y arriver qu'il y a encore 10 ans.
Alors, on va retrouver Arnaud Souk pour commenter le géant de Cyprien Sarrazin. Il est parti, Arnaud.
Il est parti, effectivement, sur le glacier du Rettenbach. Première intermédiaire et déjà de l'avance pour Cyprien Sarrazin. C'est pas grand-chose, c'est 4 centièmes. Mais cela veut dire qu'il est bien parti, 4 centièmes d'avance sur le leader actuel, Alexander Steen Olsen, le Norvégien. Ça serait vraiment quand même très, très encourageant de voir Cyprien Sarrazin lutter durablement avec le Norvégien pour le chrono. Il a 45 centièmes de seconde, de retard désormais au deuxième. deuxième intermédiaire dans une partie voilà qui est extrêmement difficile, qui est extrêmement pentue. On a une pente à 60 degrés dans ce glacier du Rettenbach avec une neige qui est forcément très marquée, une neige qui est très glace comme on dit dans le jargon et qui donne de fil à retordre, beaucoup de fil à retordre aux skieurs. Au troisième intermédiaire, on va voir ce que cela donne dans un instant pour Cyprien Sarrazin qui semble toujours être dans le match. 2-0-5 désormais de retard. Je vous rappelle qu'il faut rentrer dans les 30 pour Cyprien Sarrazin pour espérer voir une deuxième manche. Il s'élance avec le 2-32. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas fait de slalom géant qui était sa première discipline de prédilection. 2-40 de retard à la fin, une 26e position. C'est bien pour Cyprien Sarrazin, mais c'est pas sûr que ça suffise pour se qualifier pour la deuxième manche tout à l'heure.
Alors voilà, Cyprien Sarrazin, le prochain, alors c'est pas Marcel Hirscher, mais c'est dans pas longtemps hein, cet événement, le retour de la légende. Absolument. 5 ans après sa retraite, hein, c'est ça.
Alors Vincent Krischmeier de s'élancer, lui qui est un spécialiste avant tout de la descente, hein, mais qui fait partie quand même de ces skieurs polyvalents, Vincent Krischmeier, l'Autrichien, voilà, qui est un monstre même de la descente et qui choisit de s'élancer sur ce slalom géant, probablement plus pour rechausser les skis que pour espérer véritablement rivaliser. C'est compliqué d'ailleurs sur ce début de slalom géant, sur ce début de manche pour Vincent Krischmeier. Oui, je vous disais rechausser les skis parce que l'hiver, on va dire, est quand même très court par rapport au reste de l'année et en particulier pour les spécialistes de la descente qui devront attendre la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre pour avoir leur première course de prédilection. 55 centièmes de retard au deuxième intermédiaire pour Vincent Krischmeier qui est dans cette partie très difficile dont je vous parlais il y a quelques instants. Vincent Krischmeier qui va passer au troisième intermédiaire dans quelques instants, qui sera en retard, largement en retard avec 2 secondes, 29 centièmes de retard, et là sur la fin il devrait quand même arriver à amener son poids, son lourd poids, sa lourde masse pour avoir un tout petit peu de vitesse et peut-être essayer de limiter la casse Vincent Krischmeier, mais ça sera quand même 3 secondes à l'arrivée, 3 secondes à l'arrivée, une 28e position. Et maintenant,
alors c'est parti là, la légende, Marie là, elle va suivre ça évidemment hein, Marcel Hirscher.
Ah bah oui parce que moi j'ai mis une pièce hein, je pense alors, vraiment qu'il vient pas là pour acheter du terrain donc
Christophe bon. Aussi bien sûr Pascal et Sarah,
ça va donner 5 ans d'absence, voir s'il est toujours dans le coup, s'il peut s'accrocher au meilleur. Je suis circonspect.
Et puis le matos,
je me permets de vous couper parce que voilà, là on est donc quand même dans le moment de vérité. 6 centièmes de retard pour Marcel Hirscher. On rappelle quand même le pédigré du bonhomme, 67 victoires en Coupe du Monde, nonuple vainqueur du gros globe de cristal. Personne n'a fait une pareille performance dans toute l'histoire du ski alpin. Et pour l'instant, il est dans le ton, Marcel Hirscher. 43 centièmes de retard au deuxième intermédiaire. C'est très propre ce qu'il fait. Il est dans les mêmes temps que Cyprien Sarrazin et que Vincent Krischmeier il y a quelques instants. C'est là qu'on va voir si le physique tient du côté de Marcel Hirscher, parce que c'est peut-être la plus grande interrogation. Son côté virtuose, il n'y a pas de doute, il est toujours là. Le matériel, il l'a développé pendant des années. Le problème pour Marcel Hirscher, chercher de savoir s'il est toujours dans le coup physiquement. Une 56 de retard au troisième inter, c'est mieux que Sarrazin, c'est mieux que Krischmeier. Ça va se qualifier en deuxième manche en quelques instants pour Marcel Hirscher. Il sera loin, mais malgré tout, il va se qualifier avec ce drapeau des Pays-Bas en deuxième manche. Il est à 2 secondes 29, 26e position. Ça devrait passer pour Marcel Hirscher. Et là, bah, tout à l'heure, il va s'élancer en deuxième manche. Si jamais il est donc qualifié dans les 30 avec un super dossard qui devrait lui permettre de faire parler son talent. Et en tout cas, il y a le public qui est venu en masse. Certes, il ne porte plus les couleurs de l'Autriche, Marcel Hirscher, mais le public autrichien du Tyrol est vraiment ravi de le voir ce matin.
26e, Arnaud, ça veut dire que s'il y en a 4 qui lui passent devant, il ne sera pas qualifié. Hein.
Oui, mais alors en géant, quand c'est quand même pas évident. Hein, on attend de passer devant, mais on va attendre de voir.
On va suivre ça,
bien sûr. De voir comment ça va se passer. En tout cas, 26e position pour Hirscher, 27e pour Cyprien Sarrazin. Les écarts sont très serrés. C'est pour ça que voilà, c'est difficile à dire pour l'instant, mais ça va être pas loin de la qualif.
Merci beaucoup à Arnaud, c'était bien de vivre ça avec toi, bien sûr, ce retour de Marcel Hirscher, légende du ski en direct, donc dans les grandes gueules du sport. Vous restez avec nous, les GG qui reviennent tout de suite sur RMC, elles vont passer la seconde pour parler de ce OM-PSG, le choc à suivre en direct sur RMC, journée spéciale sur RMC. Est-ce que l'OM peut faire tomber le PSG? Est-ce que c'est l'année ou jamais? Venez au 32-16, on vous attend, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.